Samarcande. Avec, par et pour les jeunes. Une heure de temps de parole.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Samarcande, le projet radiophonique de l'AMO Samarcande. Vous êtes avec Joséphine et Céline à l'antenne. Nous nous trouvons dans les locaux de Samarcande avec un groupe de 5 jeunes qui sont venus réaliser une émission aujourd'hui avec nous. Et avant de commencer, je vais laisser ces jeunes se présenter autour de la table.
Donc, moi c'est Georgial.
Moi c'est Brice, bonjour.
Bonjour, moi c'est Emina.
Moi c'est Kaiden.
Et moi c'est Alizé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Samarcande. Alors aujourd'hui, vous êtes venus pour réaliser une émission autour de plusieurs thématiques, dont notamment le rapport à la différence, le rapport qu'on peut avoir avec la mort ou avec les animaux. Et avant de commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est selon vous, à quoi ressemblerait une société dans laquelle on se ressemblerait toutes et tous?
Alors, pour moi, ça serait difficile de s'imaginer, car je pense que l'homme vit et apprend de ses expériences et qu'on n'est pas comme ça parce que c'est notre personnalité et que c'est comme ça qu'on est, mais c'est plus notre expérience qui... les expériences qu'on a eues et ce qu'on a vécu. Par exemple, si j'étais né dans un autre pays, ça serait complètement différent. Et donc, pour être tout le monde les mêmes, il faudrait que chacun soit dans le même pays, qu'il ait les mêmes expériences, la même famille. Donc, c'est difficile de s'imaginer, mais on peut s'imaginer, quoi.
Moi, je trouve que c'est difficile à imaginer. Surtout... À l'heure où on vit, où les villes sont très cosmopolites, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, qui ont des cultures différentes, qui ont une manière de vivre différente, qui ont une histoire différente. Moi, je trouve que c'est difficile à imaginer. On peut essayer d'imaginer, mais ça demande beaucoup d'imagination parce que... C'est pas quelque chose de réel et je pense que ça sera jamais réel.
Et du coup, à contrario, alors selon vous, qu'est-ce que nous apporte la différence, finalement, en société?
Une authenticité. Pour moi, c'est important que les gens soient différents, que tout soit différent en société. C'est plus agréable à vivre, je trouve. Et ouais.
Georges, tu veux rajouter quelque chose?
Je suis d'accord.
Tu es d'accord? Et pour les autres, Kaiden ou Emina?
Moi, je pense que ce serait ennuyant si on était tous les mêmes, ouais. Parce qu'il n'y aurait pas de possibilité d'avoir des échanges intéressants.
Selon vous, en tout cas pour vous, en quoi on peut se sentir aussi différent des autres, finalement?
Le physique, la personnalité, la manière de penser. L'histoire, l'environnement. Là. Ouais.
Les expériences.
Les expériences. Ouais. Est-ce qu'on vit dans une société, pour vous, qui accepte facilement la différence?
Ça dépend des pays.
Ça dépend des pays.
Ça dépend des personnes.
Ouais, ouais. Surtout, ça dépend des personnes. On a tous un avis différent là-dessus. Mais... Ouais.
Ouais.
Ça dépend des pays, des personnes et surtout des différences. Genre, on peut avoir une différence d'âge, ça va pas déranger quelqu'un, mais par exemple, l'exemple du racisme, la différence de couleur de peau, ça peut être très agaçant pour certaines personnes, alors que l'âge n'a rien à voir, donc ça dépend aussi de la différence. Mmh.
J'ai proposé qu'on fasse une première pause musicale en lançant le premier son qui va être Gorillaz, Clint Eastwood. C'est parti.
Feeling glad I got sunshine. in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies, from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion he provides. With me as a guide, y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, love it. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'émission. Et du coup, pour continuer, j'ai envie de vous demander, parce que vous avez pas mal parlé de l'école aussi, pendant les préparations, est-ce que l'école, selon vous, elle permet aussi d'accepter les différences? Comment elle se traduit, cette différence, à l'école?
Moi, mon avis personnel, c'est que l'école, il y a beaucoup de failles dans ce système de l'école, et notamment qui nous met beaucoup en compétition. Et ça nous met beaucoup en difficulté parce qu'on est appris à tout le temps être en compétition, qui est quelqu'un qui a des bonnes notes et qui compare ses notes à quelqu'un en dessous. Il y a tout le temps de la compétition dans plein de situations. Et je trouve ça dommage d'être appris à être compétitif entre nous. C'est pas quelque chose qui est bien pour nous dans la vie, qui nous apprend à être quelqu'un.
Bah, moi, je suis d'accord. De manière générale, j'ai un avis assez négatif sur le fonctionnement de l'éducation dans notre pays. Parce que je trouve que c'est... Dans les établissements aujourd'hui, il y a un esprit qui est beaucoup moins pédagogue, où on se retrouve pas à l'école dans l'esprit de vouloir apprendre quelque chose. On va pas à l'école en se disant « Super, je vais apprendre quelque chose ». on trouve pas quelque chose de bien dans le fait d'apprendre des choses. On va à l'école pour avoir des points, pour avoir des résultats, pour avoir un diplôme, et parce que c'est la manière, c'est ce qui est reflété par les professeurs. C'est les professeurs qui nous enseignent à penser comme ça, à nous faire comprendre que, enfin, les cours par exemple sont, je trouve, vraiment pas dans un esprit de pédagogie, beaucoup plus dans l'esprit de juste retenir des choses pour avoir des résultats. Et moi, je trouve que c'est triste, parce qu'on devrait aller à l'école dans le but de vouloir apprendre des choses, et les professeurs devraient nous transmettre l'envie d'apprendre des choses et de découvrir notre monde, et pas juste de faire fonctionner ça avec juste des résultats, des chiffres qui sont censés montrer à quel point on a des connaissances sur un sujet. Mmh. Je trouve ça dommage.
Et comment l'école pourrait faire autrement alors?
Moi, je dis qu'il faut supprimer l'école.
Et qu'est-ce que tu mettrais à la place du coup, Alizée?
Bien, je mettrais l'école, mais sur la vie, pas sur l'école. Genre, on apprendrait à comment se défendre dans la rue, comment supporter les critiques, comment se faire à manger, comment calculer l'argent. Oui, calculer, ça fait partie d'une matière de l'école, mais comment apprendre sur la vie à la place d'apprendre des tables de multiplication ou de français. Et je dis aussi qu'il faudrait retirer tous les travaux. Et surtout l'argent, il faudrait le retirer. Parce que l'argent, c'est toxique. Et c'est triste. À cause de ça, il y a beaucoup d'injustices. Et moi, je préférerais qu'on retire tout ça et qu'on vive tous en paix.
Bah, moi, je suis d'accord sur un tout petit point de ce que tu as dit, parce que le reste, je ne suis pas vraiment d'accord. Mais je trouve que oui, à l'école, on devrait plus nous apprendre la vie de manière globale, à vivre, à savoir se débrouiller quand on sort de l'école, à savoir vivre en société, nous apprendre comment fonctionnent tous les rouages, par exemple nous apprendre la politique, c'est très peu fait. Moi, j'ai acquis des connaissances, mais par moi-même, parce que ça m'intéresse. Il y a beaucoup de gens de mon âge, même par exemple des gens plus âgés que moi, qui sont nulle part dans la politique, qui ne savent pas comment fonctionne la politique de notre pays, et après on va leur demander d'aller voter, et y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc ça, je suis d'accord, oui, qu'on est censé, qu'on devrait plus nous apprendre comment fonctionne la vie au sens large. Mais je suis contre une suppression de l'école, parce que au-delà de ça, je trouve ça important d'apprendre des choses comme l'histoire, les mathématiques et tout ça. C'est le fondement de notre civilisation, et c'est important d'en avoir connaissance.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus?
Alors, je pense que l'école nous apprend majoritairement, même plus que majoritairement, de faire notre job, de faire servir à la société, et pas, comme a dit Alizée, de pouvoir faire autre chose. Pouvoir avoir une vie, pouvoir gérer son argent, sa famille, pouvoir gérer ses émotions, et c'est fort dommage.
On serait une école de l'apprentissage de la vie, un peu, en fait, qui soit plus axée sur des choses concrètes, en fait, de la vie, quoi.
Ouais.
Il y a une citation que l'une de vous a citée, à un moment donné, qui dit « Soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris ». D'Oscar Wilde. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette citation? Est-ce que...
Bah, ouais, ça m'évoque qu'il faudrait essayer de pas calquer notre personnalité sur celle des autres. C'est important d'être soi-même, que chacun a quelque chose en lui qui le définit, que ce soit en bien ou en mal, mais comme tout le monde. Mmh. Et c'est important d'avoir sa propre personnalité et de ne pas craindre que la sienne est mauvaise ou qu'elle ne plaît pas aux autres. et d'à cause de ça, la baser sur celle des autres.
Est-ce que c'est toujours facile d'être soi-même lorsqu'on on fait partie d'un groupe, d'une société?
Non, c'est pas toujours facile.
Ouais.
Ça demande beaucoup d'efforts.
Une grosse confiance en soi aussi.
Qu'est-ce que vous vous mettez en place dans ces moments-là où vous pouvez sentir des tensions entre le fait d'être soi-même et dans un rapport avec les autres, c'est pas toujours évident. Comment vous vous faites pour pouvoir rester vous-même, finalement?
Bah, faut se dire que le monde est grand et que si je ne réussis pas dans un groupe social, par exemple dans un groupe d'amis, je suis invité à boire un verre et je m'intègre pas très bien, ils aiment pas ma personnalité, bah faut se dire que il y aura plein d'autres groupes où ça va être bien et le monde n'est pas restreint à ce groupe. Donc j'aime ma personnalité, du coup je peux continuer. Faut pas changer pour les autres, ça c'est sûr. Mais le monde est très grand et on peut tout le temps se faire des amis ou rencontrer des gens. Donc c'est pas ça le problème. C'est pas le problème que, pour moi, que ma personnalité est un défaut. C'est plus la compatibilité avec les gens.
Et aussi, pour sortir un peu de justement la vie qu'on a de soi-même sur sa personnalité, au niveau de ce que les autres peuvent en penser, je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse, les gens ont tendance à beaucoup critiquer les personnalités des autres en fonction de celles qu'ils connaissent ou de la leur. Et je pense qu'il y a un flagrant manque de respect là-dessus. Et je pense qu'on ne devrait pas juger quelqu'un par sa personnalité ou par comment il est, juste de l'accepter et de l'accepter, de l'accueillir comme il est.
Ça nous renvoie à ce fameux truc d'accepter finalement la différence des autres, quoi.
Évidemment que parfois il y a des choses qu'on peut juger qui peuvent sembler anormales, mais des traits de personnalité, c'est juste une personne comme elle est, il faut apprendre à savoir vivre avec elle. Il y a des traits, tout le monde a des bons traits, tout le monde a des mauvais traits, et c'est pas pour tout le monde a des défauts et des qualités, c'est pas pour autant qu'on a jugé une personne ou la dénigrer.
Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que vous avez envie de réagir?
C'est très bien, je suis d'accord, tout à fait d'accord.
Si personne ne peut nous aimer Si une personne nous aime en étant quelqu'un d'autre, alors elle ne pourra pas nous aimer en étant soi-même. Alors du coup, il faut rester soi-même.
C'est très joli ce que tu nous dis là, Alizé.
Très inspirant.
Une dernière question que je vais vous poser, c'est comment on peut finalement bien vivre ensemble, sachant un peu ce que vous disiez, comment on peut bien vivre ensemble tout en étant différent, finalement?
Moi, je pense que ça passe d'abord par le respect, comme je l'ai dit, et l'acceptation des autres. Et il faut s'enlever tout le temps ces pensées de jugement envers les gens qui sont différents de soi ou différents de ses proches. Il faut apprendre à vivre avec et à cultiver la richesse qui est cachée en tout le monde et pas juste voir le négatif, ce qu'on pense être négatif par rapport à soi-même.
Et est-ce que c'est juste individuellement? On a tous chacun un effort à faire, ou est-ce que vous pensez qu'il y a aussi quelque chose qui serait de l'ordre d'une responsabilité plus collective?
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense avoir...
Parce que j'entends que nous aussi, chacun, en fait, on doit avoir aussi la notion de respect des autres, d'acceptation de la différence. Et ça, c'est individuellement, en fait, chacun, nous, en tant que personne, ce qu'on peut mettre en place. Et je voulais demander ce que vous pensez aussi qu'au niveau sociétal, il y a quelque chose qu'on pourrait aussi mettre en place pour favoriser aussi cette acceptation de la différence et le bien vivre ensemble, finalement.
Par exemple, l'école, encore une fois, peut-être apprendre ça dans des cours plus philosophiques. Et aussi par l'éducation des parents, je pense.
Merci. J'ai proposé une deuxième pause musicale avec un morceau de Mozart.
Voici sur les ondes de Saint-Marcande pour la deuxième partie de l'émission. Pour l'animation, j'ai repris, donc c'est Céline. On va refaire un petit tour de table pour les auditeurs. Nous avons...
Georges Hall.
Salut.
Boris.
Salut Boris.
Emina.
Salut Emina.
Kayden.
Salut Kayden.
Alizé.
Salut Alizé. Mais du coup, pour, lors des préparations, vous nous avez dit que vous vouliez discuter en fait du rapport à la mort. Donc la première question qu'on avait envie de vous poser, c'était de savoir est-ce que vous avez l'impression qu'on vit dans une société où on parle facilement de la mort.
Moi, je pense que ça dépend des cultures, mais dans notre culture à nous, c'est un sujet assez tabou.
Est-ce que vous partagez cette idée que la mort c'est tabou dans notre société?
Moi, je pense que ça dépend des personnes.
Je pense que c'est parce que, genre, dans la société dans laquelle on est, genre niveau continent, en Europe, il y a une majorité de personnes qui ont un peu peur de la mort, Du coup, ça fait qu'on parle pas souvent de la mort parce que du coup, ça suscite de la peur.
Et qu'est-ce qui fait peur, du coup, quand tu dis, toi, tu te dis que c'est la peur de la mort qui fait qu'on préfère ne pas en parler. Qu'est-ce qui fait peur dans l'idée de la mort?
Le fait qu'on pense à rien, genre qu'il se passe plus rien une fois que tu meurs, et on ne sait pas s'il y a vraiment quelque chose après la mort ou pas, parce que personne n'est revenu de la mort pour nous le dire. Du coup, c'est très inconnu.
Moi, je pense que c'est le fait d'abandonner l'histoire de toute une vie, d'abandonner tous ses souvenirs pour partir dans une nouvelle vie, entre guillemets. T'as la peur de l'inconnu parce que, évidemment, comme Kaiden le disait, personne n'est jamais revenu nous dire ce qu'il y avait après la mort. Et faut quand même tout abandonner pour se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ouvrir une porte où on n'y voit rien et on doit abandonner tout ce qu'on a avec nous, nos souvenirs, nos familles, nos amis, nos animaux, l'argent, nos vêtements, nos objets, etc. Et donc, on abandonne tout pour se lancer dans quelque chose. Je sais que je me répète, mais faut comprendre que c'est pas super évident, quoi.
C'est vraiment pour toi une peur de l'inconnu et une espèce de peur de l'abandon.
Oui, après moi j'ai pas très peur de la mort, mais je comprends certaines personnes.
Est-ce que pour les autres autour de la table, vous avez aussi un rapport à la mort avec de la peur ou...
Vas-y. Moi j'ai pas spécialement peur de la mort. Parce que c'est quelque chose avec quoi on doit vivre. Et là où quand j'étais jeune, et je pense que c'est normal pour tout enfant, il y a toujours une phase où on pense à la mort et où on se pose des questions. Avant, j'en avais peur, et j'avais aussi peur de la mort autour de moi, donc plus de la mort chez mes proches, la peur de les voir disparaître. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec cette peur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et maintenant, c'est plus quelque chose qui me fait peur, mais si, évidemment... On aura toujours un rapport à la mort difficile avec la mort de certains de nos proches, etc. Ça fait partie de la vie et il ne faut pas trop se tracasser par rapport à ça, je pense.
Moi, je pense que l'être humain est fait pour avoir peur de l'inconnu. Et y a plein de choses dont on ne connaît pas, genre... Par exemple, demain, je vais dans une autre école, je vais dans un autre travail. Je m'inquiète parce que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais bien m'intégrer. Et c'est l'inconnu. Et la mort aussi, c'est un peu l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer après la mort. On peut avoir une croyance, mais on ne peut pas être certain que la mort va se passer comme ça. Et je vais revoir ce que j'ai connu ici, ou telle chose va se passer. C'est difficile d'en déduire, et ce qui fait que ça fait peur, en effet.
Je sais qu'aussi en préparation, il y avait, vous m'avez parlé de la grande horloge. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la grande horloge?
Quand on y pense, ça peut faire peur, puisque le temps passe et on ne peut rien faire pour l'arrêter. Et enfin, forcément, on se rapproche chaque jour de la mort, et parfois c'est un peu effrayant.
Et est-ce qu'on a une prise sur le temps, selon vous?
Le temps peut passer. Il y a des gens, ils en profitent moins que d'autres, et des gens sont plus inquiets par rapport au temps que d'autres. Et j'ai remarqué que ceux qui sont jeunes veulent beaucoup vieillir. Et ils veulent passer du temps, avancer le temps. Et ceux qui sont vieux veulent beaucoup rajeunir et devenir jeunes. Et repasser les moments qu'on a eus quand on était jeunes. Donc moi, je suis un peu dans la phase où j'aimerais vieillir. Parce que des fois, il y a un peu des injustices que je vis à cause de mon âge. Mais je suis sûr que dans quelques ans, je voudrais retourner à mes 14 ans et pouvoir revivre mes 14 ans.
Est-ce que le temps, il passe toujours de la même manière ?
Non. Non, par moment, ça passe plus vite et par moment, ça passe moins vite. Je sais que tout n'est qu'une impression, mais dans nos têtes, ça passe vraiment différemment. Mais le temps en soi ne reste toujours pareil.
Et ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que vous, vous pensez qu'il y a une vie après la mort ? Vous parlez d'inconnu et certains parlaient de devoir quand même aller dans un autre monde, de devoir abandonner certaines choses ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort ?
Oui. Et ça, je le pense plus parce que j'ai une phobie de la mort. Du coup, j'ai ça, mais pour me rassurer. Du coup, voilà.
Ça dépend totalement des cultures, ça dépend de là où on est, ça dépend des parents. Mais moi, je pense beaucoup à la réincarnation. C'est-à-dire que pour moi, quand on meurt, on commence une autre vie, quelque part dans le monde, autre part, ou quelque part, ouais, dans le monde. Et on laisse tout derrière nous et on oublie tout ce qui s'est passé dans les anciennes vies et qu'on commence une nouvelle vie avec des nouvelles personnes. Et ça voudrait dire qu'on a déjà eu des centaines de vies avant nous et qu'on a tout oublié. C'est fascinant.
Est-ce que tu as l'impression de pouvoir te souvenir des vies antérieures ?
Non.
Et si vous deviez vous réincarner dans votre prochaine vie, est-ce que vous avez une idée dans quelle vie vous avez envie de vous réincarner ?
Je pense que je suis très satisfait de ma vie. Parce que je sais qu'il y a mieux, mais je sais très bien qu'il y a pire et qu'il y a beaucoup pire dans le monde. Et je pense que je suis très chanceux d'avoir ma vie. Même si j'ai eu des mauvaises expériences, des mauvaises expériences, oui. J'ai quand même appris des erreurs et j'ai quand même appris des expériences. Et ça fait que je suis une personne aujourd'hui. Et c'est bien. Si je voudrais recommencer une vie, ça sera celle-là.
Et est-ce que vous partagez tous l'idée de... que c'est chouette de croire à quelque chose après la mort pour se rassurer. Est-ce que vous êtes tous dans cette idée-là ?
Moi, je me dis que je verrai bien quand je mourrai.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que c'est important d'entendre et de raconter des histoires autour de la mort ?
C'est majoritairement pour se rassurer, encore une fois. Pour mettre quelque chose sur ces peurs de l'inconnu, pour avoir quelque chose qu'on reste pas dans le noir. Et... ouais.
Moi, je dirais que c'est la croyance, c'est la culture, c'est la façon dont les gens choisissent de vivre. Ils choisissent de vivre en pensant que la mort se définirait de telle manière, qu'il y aurait Jésus ou Dieu. Et je suis totalement d'accord, même... j'ai choisi et j'ai suivi ces croyances et c'est ce qui fait notre culture, ce qui fait nous quoi, notre groupe de croyants, ou ce qui fait notre culture.
Est-ce qu'il y a tu parlais de culture de mort, est-ce que vous trouvez qu'il y a des rites autour de la mort qui sont importants pour vous?
Des rites.
Des rites, ça peut être faire une cérémonie, ça peut être enterrer, dire un petit mot. Des rites, c'est des activités qu'on fait en général aussi en collectif.
Ah oui.
Pour donner du sens.
Moi, je pense que c'est surtout pour faire le deuil, parce que la personne qui est morte, je pense qu'elle s'en fout un petit peu.
C'est pour les vivants.
Oui.
Ouais, moi, je trouve que ça fait du bien. Et ça permet de... par exemple, à l'enterrement, les funérailles, ça permet de... bah, d'à la fois donner un dernier au revoir, ça aide à tourner la page, je pense. Et Moi, je trouve ça important qu'il y ait ça. Et aussi pour honorer la mémoire de la personne, même si comme a dit Alizé, elle est morte et elle, ça se trouve, elle s'en fout. Ça se trouve, elle est là. Et ça se trouve, elle nous voit. Mais il y a beaucoup de chances que non. Mais je trouve que c'est quand même important d'honorer sa mémoire.
Pour moi, c'est important, mais plus du point de vue du mort. Donc c'est un peu l'inverse. Parce que, si quand on meurt, on devient un fantôme ou je sais pas quoi, et qu'on décide, je sais pas, d'aller voir comment se passe l'enterrement, comment vont nos proches après notre mort, et qu'on voit qu'ils font rien et qu'ils s'en foutent totalement, ou qu'ils sont même contents qu'on soit mort, parce que ça les arrange. Je trouve que c'est un peu blessant pour la personne qui est morte. Alors que si, par exemple, on voit des gens qui sont un peu tristes de notre mort et qui ont l'air de... J'arrive pas à formuler cette phrase. Genre, par exemple, qu'on manque à ces personnes-là parce qu'on est mort... ça va peut-être nous rendre un peu contents parce qu'on voit que des personnes tiennent à nous. Du coup, voilà.
Oui, donc du coup, les rites, ce serait une manière de montrer l'amour, l'affection pour la personne qui est décédée. Ce que j'avais envie aussi de vous poser, tout à l'heure, on parlait de réincarnation. Je sais aussi que vous m'avez parlé d'enfer, de paradis, du purgatoire. Et souvent, ce qui revient en fait avec l'idée de mort aussi, c'est l'idée de bien ou de mal. On parle souvent de bien ou de mal, de finalement, c'est ça qui va guider en fait si on va en enfer, au purgatoire, au paradis. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en fait ces idées-là?
Moi, personnellement, j'y crois pas.
Moi, j'y crois, mais d'une différente manière que certaines personnes. Genre, par exemple, le paradis, ça dépend de la personne qui dirige le paradis. Soit si c'est Dieu qui dirige le paradis, je suppose que là, ça va être les gens qui croient en Dieu qui pourront avoir accès au paradis. Quant à ceux qui... ne croient pas en Dieu, iront soit au purgatoire, soit en enfer. Mais ça dépend aussi s'ils ont fait des bonnes choses ou des mauvaises choses.
Moi, je n'y crois pas. Et je pense aussi que le bien et le mal, ça peut être très subjectif.
Qu'est-ce que tu veux dire par subjectif?
Déjà, chaque personne a sa définition du bien et du mal. Puis il varie aussi en fonction des cultures et des époques.
À votre avis, si les humains étaient immortels, on serait comment?
Très moche.
Est-ce que vous êtes déjà imaginé un monde où les humains seraient immortels? On serait immortels.
On serait en surpopulation.
Possible.
Peut-être qu'on aurait déjà fait des trucs qu'un humain n'est pas censé faire de base, vu qu'un humain n'est pas censé être immortel. Moi, je m'imagine que à partir du moment où il est mortel, il peut faire un tas d'autres choses. Du coup, si un humain est immortel, à mon avis, il peut faire des choses qu'un humain n'est pas censé faire, genre faire tomber un astéroïde sur la planète.
Est-ce que ce serait amusant, vous imaginez, un monde où on serait immortel?
Non. Non, parce que tout le monde, à un moment donné, les gens vont saturer, ils vont plus savoir aimer leur vie. Ils seront là jusqu'à même quand la Terre sera finie, quand la Terre n'existera plus, ils iront quand même dans l'espace, ils vivront dans l'espace ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est très très triste parce que les gens... ils auront beau essayer de se donner la mort, ils n'y arriveront pas.
Moi, je dirais, ce serait bien si on ne pourrait pas mourir de vieillesse, mais qu'on pourrait mourir de façon naturelle, d'une maladie ou d'autres raisons. Mais mourir de vieillesse, je trouve que c'est un peu triste. Parce que, bon, d'un côté, ça peut être bien, mais ça peut être triste pour les autres et pour nous aussi. Si on veut continuer notre vie, peut-être, et qu'on peut pas, ça peut être triste. Mais c'est intéressant de pouvoir, pouvoir vivre le temps qu'on veut si on fait gaffe à notre corps.
C'est plus l'état de vieillesse, de fatigue dans le corps, toi, qui te fait peur, si je comprends.
Ouais, le fait qu'il y ait une fin qui est prédéfinie et qu'on sait qu'un jour, on va y passer.
Ce que je me demandais aussi, c'est parfois, est-ce qu'à l'adolescence, on ne se sent pas aussi un peu immortel ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a l'impression d'être immortel ?
Personnellement, j'avais ça quand j'avais 6-7 ans.
C'est plus quand tu étais enfant que tu te sentais immortel ?
Ouais. Genre, je m'autorisais à tout faire et j'avais pas peur. Genre, maintenant, j'ai un petit peu peur, pas de mourir, mais de, par exemple, je sais pas moi, escalader un escalier, aller sur le toit et je sais pas moi, encore explorer un autre toit et d'aller de toit en toit. Mais maintenant, j'oserais pas. Mais en étant plus petite, j'osais et je me disais que rien ne pouvait m'arriver. Donc voilà.
Est-ce que, enfin, aussi la question que je me pose, est-ce que quand on est ado, est-ce qu'on pense souvent à la mort et est-ce que c'est forcément inquiétant de penser à la mort ?
Inquiétant pour soi ou pour les autres?
J'ai l'impression que parfois on se dit que ah tiens, il pense à la mort, on s'inquiète. Peut-être pour les autres?
Ça dépend du contexte. Moi, comme j'ai dit, je pense que quand on est jeune, tout le monde passe par là. Parce qu'il y a bien un moment donné où on commence à penser à la mort. Après, quand on est plus âgé, ça peut être signe d'un mal-être. Donc forcément, ça peut être inquiétant.
Moi, je pensais souvent à la mort vers mes 4 ans. Et je me demandais, il y avait quoi après la mort. Donc je voulais mourir à mes 4 ans. Et pour mes parents, ils s'en foutaient totalement. Enfin, ils s'en foutaient. En mode, ils m'insistaient pas à le faire, mais...
Ils entendaient pas, quoi.
Ouais. Et du coup, je pense que ça peut être inquiétant pour les autres, mais pour la personne aussi.
Et à votre avis, tout à l'heure, on parlait de l'immortalité. Le fait, du coup, qu'on a une finitude dans nos vies, qu'on est mortel... Qu'est-ce que ça permet, du coup, dans la vie ?
De profiter de la vie.
Comment ça ? Pour toi, comment ça se met de pouvoir profiter de la vie ?
Bah, en ayant des craintes, on fait tout pour profiter... Enfin... Comment je vais expliquer ça ? Quand on a peur de la mort, on fait un maximum de choses avant de mourir parce qu'on sait que ce sera fini après. Donc, on ne pourra plus faire de choses, ou du moins, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, il faut en profiter sur le moment même. On n'a qu'une vie et il faut toujours la retenir. Il faut se lancer dans les choses qu'on ne connaît pas, même si parfois ça fait peur. Et faut pas hésiter.
Je suis totalement d'accord. J'aime bien ta façon de voir les choses, oui.
Bah oui.
Ouais. C'est pas quelque chose qu'on pourrait se dire déjà dès le début, d'essayer de profiter de chaque instant?
Non, parce qu'à ce moment-là, on se rend pas compte de la mort. C'est quand on a connu des choses, ou enfin, je dis ça comme exemple, hein. Mais c'est quand, par exemple, on a connu la famine, qu'on va pas hésiter à dire oui quand on nous propose d'aller manger quelque chose ou quoi que ce soit. Ouais, un petit peu ce que je veux dire.
Ouais, les expériences qu'on vit, du coup, comment dire, nous font envisager les choses différemment. Ça,
oui.
Je sais plus qui me disait en préparation la vie sans la mort, c'est comme la tristesse sans la joie.
Je pense que sans la mort, il n'y aura pas une vie. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à ce que sans la tristesse, il n'y a pas de joie. Parce qu'alors, il y a forcément de la tristesse parce qu'il y a des moments plus chouettes que d'autres. Du coup, il n'y a pas de joie s'il n'y a pas de tristesse et ça me fait penser à la mort, du coup. Ou s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Dans le sens où la vie n'est pas la même si on sait qu'on va mourir. Ça peut être positif ou ça peut être négatif, mais c'est pas la même chose.
On va faire une mini pause musicale avant de clôturer. Donc nous allons écouter Mylène Farmer, L'horloge.
Une cible, le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison.
Mon gosier de métal parle toutes les langues.
Les minutes mortelles, folâtres sont des gangues qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or.
Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher. À tout coup, c'est la loi.
Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Souviens-toi, souviens-toi.
Ou
le repentir même, ou la dernière auberge, où tout te dira.
Meurs, vieux lâche, il est trop tard.
Mmh.
sur les ondes de Saint-Marcande pour le mot de clôture de cette émission. Donc voilà, nous sommes toujours autour de la table et nous allions parler en fait plutôt du rapport à la mort et aux animaux. C'est un sujet aussi que vous avez dit qui était important pour vous. Et du coup, je voulais vous demander tout d'abord, en fait, la nature, qu'est-ce que ça représente pour vous ? La nature et les animaux, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Pour moi, ça représente, genre la nature, c'est plus les plantes et ce genre de trucs. Et où vivent les animaux dans la nature. Et c'est tout.
Moi, je pense que quand on parle de nature, on parle aussi de l'être humain et que l'être humain fait partie de la nature. Je voulais juste ajouter ça, c'est important pour moi. Et que on pense que l'être humain et la nature est mis à part, mais moi, je trouve que l'être humain fait partie de la nature.
Pour moi, la nature, les animaux et tout ça, c'est la vie. Et ouais.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'on respecte forcément assez les animaux et la nature ?
Clairement, non.
Tu penses à quoi ?
Je pense à ce que... Déjà, le fait qu'on jette nos déchets par terre, c'est une grande cause. Le fait qu'on détruit la nature pour y bâtir des bâtiments. Le fait qu'on prend des animaux comme esclaves, un petit peu. Genre, tu vois, on monte les chevaux et... On l'utilise comme moyen de transport. Plein de trucs comme ça, je trouve que c'est pas bien.
Pourquoi l'humain, il s'est pensé au-dessus de la nature et des animaux ?
Moi, je pense que c'est parce que l'être humain est un peu plus développé, genre physiquement, et peut-être aussi intellectuellement, que certains animaux... Genre, par exemple, quand on était près à la préhistoire, genre, on se tenait sur nos quatre pattes et on était tout bossu. Maintenant, on marche sur nos deux jambes et la plupart d'entre nous se tiennent droit.
Et Mina, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, les ressemblances entre animaux, humains?
Je trouve que quand on regarde par exemple les abeilles ou les fourmis, elles ont un mode de fonctionnement assez similaire au nôtre avec des rôles bien précis et peut-être parfois un fonctionnement mieux que le nôtre. Enfin, parce que là, chacun a un rôle et tout fonctionne toujours bien et de la même manière. Et peut-être même qu'on pourrait prendre exemple sur eux parfois.
Et du coup, qu'est-ce qui fait du coup qu'on a un rapport de... domination parfois, enfin souvent même, avec la nature et avec les animaux.
Je pense qu'on cherche pas assez à la comprendre non plus.
Après, c'est comme ça que l'humain a été pensé. On est tout au-dessus de la chaîne alimentaire, par exemple. On mange les autres animaux pour vivre. Et pour moi, c'est... c'est quelque chose de normal comme dans des zones très naturelles, d'autres animaux en tuent d'autres pour les manger. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est juste la vie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ouais, voilà.
Moi, je pense que la vie... pourrait fonctionner aussi avec des animaux qui sont passifs, qui n'attaquent pas les autres animaux. Je pense que ça pourrait exister et que ça fonctionnerait très bien et qu'il n'y aurait pas d'injustice avec les animaux ou tout ça.
En parlant d'animaux, vous m'avez parlé d'un animal un peu mythologique la dernière fois. C'était le phénix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de l'oiseau, d'un oiseau qui
renaît de ses cendres,
qui s'enflamme et puis qui renaît. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, cette image-là ?
Moi, ça me fait penser à la réincarnation. Genre, par exemple, quand le phénix va bientôt brûler pour renaître de ses cendres, ben moi, ça me fait penser à l'être humain. S'il se fait incinérer après être mort, ben, s'il se réincarne, ça va être à peu près la même chose. Genre, il va renaître de ses cendres un peu.
Moi, ça me fait penser quand on touche le fond, qu'on n'est vraiment pas bien du tout, qu'on vit des moments difficiles, bah, on est détruit, mais d'un coup, on va reprendre vie et on va être encore meilleur que ce qu'on était avant.
Mais en tout cas, merci pour ces jolies paroles et toute cette chouette discussion. Le temps avance, donc c'est l'heure de clôturer, de vous remercier. Et voilà. Merci beaucoup.
Merci pour participation.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
On va lancer une dernière musique.
La dernière musique, c'est Nightcore French.
Fiat.
C'est parti.
Je faisais de mon mieux, mais personne ne voulait de moi. À l'école, rien n'allait, donc je préférais rester seule. À chaque fois, on me disait, t'es pas comme Vailleur. On m'a dit, tu arriveras pas, de toute façon, c'est pas pour toi. Reste à ta place, tu mérites pas mieux que ça. Crois-moi, n'abandonne pas, tu verras, ça payera. Moi, t'inquiète pas, je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi, et je croirai toujours en toi. Oh, je croirai toujours en toi. Et j'aurais voulu être comme, mais moi j'arrivais pas. Je faisais de mon mieux, mais personne ne voulait de moi. À l'école rien n'allait, donc je préférais rester seule. À chaque fois on me disait, t'es pas comme Vaille. Je comprends pas pourquoi personne m'a aidé. Vous étiez tous là me regarder. Tout ce que je ressens, non, t'as pas idée. J'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. On m'a dit t'y arriveras pas, de toute façon c'est pas pour toi. Reste à ta place, tu mérites pas mieux que ça. Crois-moi, n'abandonne pas, tu verras, ça payera. Moi t'inquiète pas, je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. Oh, oh, oh. Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. Oh, je croirai toujours en toi. Et t'aurais voulu être comme, mais toi t'y arrivais pas. T'as toujours fait ton mieux, maintenant tout le monde parle de toi. J'ai mis fin au passé et aujourd'hui t'es plus seul. Ils avaient tous raison, t'es pas comme tes
Samarcande.